posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir, ça s'agite sur la planète Bolloré et ça fait un mois que ça dure. Est-ce qu'on est dans un moment charnière de l'histoire du groupe? Oui, d'abord il y a eu cette annonce surprise comme quoi Vincent Bolloré, eh bien, lâchait les rênes, eh bien, de Canal+, de Vivendi. Ensuite, il y a eu cette mise en examen pour corruption dans l'affaire de l'attribution, donc de concessions portuaires en Guinée, au Togo également. Il y a les déconvenues italiennes du milliardaire, il y a Telecom Italia, Mediaset, et puis donc, eh bien, cet échec de la prise de contrôle du Bissop. Ça ressemble à un passage à vide. Est-ce que Vincent Bolloré a encore la vista? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, je voulais qu'on s'y intéresse parce que régulièrement, en effet, des infos remettent Vincent Bolloré sur le devant de la scène et ça sera l'occasion un petit peu de compiler, d'expliquer, de décrypter ce principe des décodeurs de l'écho tous les soirs sur BFM Business, à la télé, à la radio. On parlait des affaires africaines tout naturellement. J'ai demandé à Vincent Hugeux d'être avec nous. Il est grand reporter à l'Express, auteur de Reine d'Afrique et puis d'un pavé qui fait foi en la matière sur Kadhafi qui est sorti il y a quelques mois. Autre grand reporter ici à BFM Business, Mathieu Pechberti, qui vous apporte tous les matins ses scoops dans les journaux de BFM Business, François Chollet, directeur général de Montségur Finance, et Simon Tenenbaum, qui est reporter aussi ici même à BFM Business, qui suit toutes les affaires de médias et de télécom aussi. Oui, l'actualité aussi, eh bien c'est ce soir, les résultats de Vivendi, les résultats trimestriels, plus 3% pour le chiffre d'affaires à 3,1 milliards, donc à données comparables. Vivendi qui annonce, et on y reviendra d'ailleurs, le lancement des travaux permettant l'évolution du capital d'Universal Music, parce qu'Universal Music, c'est Vivendi, vous le savez, on parle d'une introduction en bourse. Vivendi très mécontent aussi de ce qui se passe du côté de l'Italie. Tout ça, on va y revenir bien entendu. Alors, oui, surprise Vivendi, il y a un mois, avec Bolloré qui avait créé la surprise, c'était le 19 avril, en annonçant qu'il démissionnait de ses fonctions de président du conseil de surveillance confié à son fils Yannick, 38 ans. Il faut laisser la place aux jeunes, disait-il. Lui, il a 66 ans. Et puis Vincent Bolloré, qui vient de porter sa participation dans Vivendi, à plus de 24%, voilà, il gagne 4 points. Il a acquis pour plus d'1,5 milliard d'euros d'actions Vivendi, donc sur février à avril. Voilà, on va essayer d'expliquer pourquoi tout ça. Qu'est-ce que ça montre, Simon Tenenbaum? Comment on lit ce retrait de Vincent Bolloré?
Sur le fait qu'il laisse la place à son fils chez Vivendi, ça, pour le coup, c'était pas une surprise. Ce qui a surpris, c'était le calendrier. C'était sans doute un peu plus tôt que ce que on avait pu anticiper. Ça peut être interprété d'une manière positive, c'est-à-dire c'est ce qui a été mis en avant par Vivendi, c'est de dire Canal+, Vivendi est sur les rails, Vincent Bolloré a fait ce qu'il fallait, il a plus besoin d'être aussi présent dans l'opérationnel. Ça peut être vu d'une manière un peu plus négative, qui est que Vincent Bolloré avait peut-être besoin à ce moment-là de se concentrer hors de France sur l'Italie, qui l'AG en Italie de Telecom Italia qui était quelques semaines après, et puis ce qui s'est passé en Afrique.
En Afrique, bien sûr, peut-être pour une sorte de précaution face aux ennuis qui l'attendent en Afrique et sur lesquels on reviendra évidemment avec Vincent Hugeux. Oui, comment vous lisez ce retrait, vous, François Chollet? Et c'est une façon aussi de prendre du champ? Parce qu'en même temps, on voit, il montre sa participation dans Vivendi, il montre sa détermination à garder la main finalement sur l'ensemble.
Quand on regarde la publication de ce soir pour Vivendi, on s'aperçoit qu'il a quand même fait une grosse partie du chemin. Il a fait le boulot chez Vivendi, Monsieur Bolloré, à la fois dans la capacité à remonter au capital, qu'il aurait imaginé pouvoir espérer 24%, puis peut-être même 30%, parce que il n'a pas caché ses ambitions sur le dossier Vivendi. C'était pas forcément évident. On se souvient de la première opération qui lui a permis de mettre le pied dans cette entreprise jusqu'à la prise de contrôle. On voit bien le talent de Monsieur Bolloré. Et puis, les comptes...
On va rappeler un peu les épisodes. 2006, Yannick Bolloré qui rejoint le groupe familial pour diriger la branche média. À l'époque, c'était Direct 8 et D17, voilà, qui ont un peu changé de nom. Depuis 2011, vente de ses chaînes à Canal+, entrée du groupe Bolloré au capital de Vivendi. 2013, Yannick Bolloré qui rejoint le groupe Havas pour en prendre la direction générale, donc en 2015. Et donc, en effet, en 2015, prise de contrôle majoritaire d'Havas par Vivendi, avec Yannick qui prend, donc, qui intègre le conseil de surveillance de Vivendi. Voilà les différents épisodes. C'est toujours bien de rappeler, hein.
Et donc, plutôt un succès du début jusqu'à maintenant. Là où les marchés ont été un peu attentistes sur le dossier, c'est que Vivendi détenait, après la cession de toutes ses participations, et détient toujours une montagne de cash. On s'est longtemps demandé quelle serait la stratégie autour de ce cash, vers quoi ce groupe allait aller. On a vu les aventures dans le jeu vidéo, donc il sort quand même, il faut pas l'oublier, avec des profits consubstantiels.
Rappelez-nous, comme ça on en parle rapidement, Vivendi donc, qui veut se développer dans le jeu vidéo, met la main sur Gameloft, mais échoue à s'emparer d'Ubisoft. Gameloft, c'est Real Football 2009, meilleur jeu mobile, c'est Modern Combat versus, je ne connais pas, je lis, hein, tout simplement, je suis pas un adepte de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a échoué sur Ubisoft?
Alors, ce qui était un peu trouble, c'est que la revue de portefeuille de Vivendi était au départ censée sortir du jeu vidéo, qui était une partie assez importante de son activité, avec des succès mondiaux. On se souvient des jeux multijoueurs massifs mondiaux qui étaient devenus des stars planétaires du jeu vidéo. Donc Vivendi était un des principaux actionnaires. Ils ont cédé cette participation-là, et contre toute attente, on les a retrouvés vers la famille Guillemot, capitale d'Ubisoft et de l'autre Gameloft qui était sur les jeux plutôt mobiles. Et donc c'était effectivement un peu perturbant. Donc il y a eu autour de Vivendi pendant quelques années une vision un peu difficile pour l'investisseur qui se demandait quelle allait être la nouvelle stratégie de cette espèce de groupe qui était devenu quasiment, pas un conglomérat, mais un portefeuille de holding sur lequel une décote s'appliquait par rapport à la valeur de chacun de ses actifs. Et donc c'est cette stratégie qui a manqué. Pour autant, pour ce qu'il reste aujourd'hui à l'intérieur du groupe, Havas étant réintégré le groupe, on a aujourd'hui des sociétés qui sont plutôt en bonne forme, qui publient de manière assez convaincante aujourd'hui, avec des perspectives plutôt prometteuses, je pense notamment à celle qui représente 43% du chiffre d'affaires, c'est Universal Media Group.
On va y revenir, bien sûr.
Avec un projet de développement qui me paraît tout à fait dans un cycle positif par rapport à toute la déflation qu'on a pu avoir sur ce marché de la musique.
Bah oui, il y a eu Universal Music qui a quelque part dépassé la crise du disque, finalement. Et, voilà,
on est sorti de cette crise du disque et on a retrouvé un chemin de croissance avec des perspectives à horizon 2022 qui sont suffisamment satisfaisantes aujourd'hui pour même permettre d'envisager la vie en dehors de Vivendi, de cette branche d'activité-là, et peut-être même son introduction en bourse. On a un portefeuille d'activité qui, aujourd'hui, est reconfiguré, a retrouvé, notamment aussi pour Canal+, le seuil de 15 millions d'abonnés, l'a redépassé, avec des marges qui sont redevenues un peu plus raisonnables. Donc, on a quelque chose qui est, quelque part, parachevé, c'est-à-dire la prise de contrôle, le redressement, et donc, il est aujourd'hui possible de transmettre ça, je pense, dans de bonnes conditions à son fils.
Alors, justement.
Ouais. Qui souhaitait, et il l'avait depuis toujours dit, aller vers ces métiers-là. Qui est, je pense, l'origine même de toute cette démarche depuis le début, au-delà de la démarche opportuniste, c'était quand même de trouver des métiers qui intéressent la relève.
On reviendra sur l'intro en bourse éventuelle de Universal Music. Mathieu Pechberti, avant qu'on voit les affaires africaines aussi, ça va beaucoup nous occuper là aussi. Vincent Bolloré, donc, il prend du champ ou pas? Qui va diriger le groupe? Qui dirige le groupe aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu de la famille Bolloré, justement. Vincent et...
Jusqu'à sa mort, ce sera Vincent Bolloré, je pense, qu'il dirigera ce groupe, même s'il n'est plus totalement aux manettes. Enfin, là, on parle de Vivendi, mais l'empire Bolloré, hein, parce qu'on parle d'empire, oui. C'est une cascade de sociétés.
Il y a du transport, de la logistique, il y a du pétrole, des zones portuaires, on en reparlera avec Vincent Huger en Afrique, de la communication, bien sûr,
de l'énergie,
Havas, Direct Matin, bien sûr, Autolib, bien entendu, et puis toutes sortes de participations financières, donc Vivendi, Gaumont, Valourec, etc.
Là, on parle beaucoup de Vivendi, effectivement, et de Canal+, parce que ça fait maintenant 3 ans que, enfin, les médias
c'est
parlent des médias aussi.
Donc, on adore.
Pendant 20, 25 ans, Vincent Bolloré a gagné de l'argent en faisant des coups. Vincent Bolloré, il a commencé sa carrière. Alors, lui, il raconte la belle histoire de la famille Bolloré, bretonne, l'usine des papiers, cigarettes au CB, etc. Il ne gagne absolument pas d'argent. Mais Bolloré, c'est un banquier. Bolloré, c'est un raideur, un financier qui a fait des coups. Il a commencé dans une banque qui était une banque d'affaires dans les années 80, qui s'appelait la banque Rivaux, qui était une banque qui tous les matins, ils arrivaient, ils mettaient 10 millions sur la table, ils faisaient des coups. Voilà, c'était ça les années 80, c'est l'époque de Lazare, c'est l'époque de d'Edouard Stern qui a fini
bah oui, comment ça en Suisse,
on se souvient. Voilà, donc Bolloré fait partie de cette génération-là, hein. Bolloré, il va avoir 70 ans dans quelques années. Et il a fait sa fortune comme ça, il a fait des coups sur le groupe Bouygues dans les années 90, vous pouvez en parler à Martin Bouygues, il l'a toujours pas digéré. Il a fait des coups sur la banque Lazare, il l'a pas digéré. Havas dont on parle aujourd'hui, c'était aussi ça, hein. Bolloré, il est arrivé par effraction chez Havas qui était une boîte qui végétait avec une direction qui savait pas trop où aller, le cours de bourse. Donc il est arrivé et puis un jour à l'Assemblée Générale, il a joué le coup de poker, il a viré la direction, il a pris les manettes. Et ça, Bolloré, il sait faire ça. Voilà, c'est un financier et quand il fait des coups, qu'on soit d'accord ou pas, il est bon. Là où ça commence à pas aller, c'est quand Bolloré joue à l'industriel, quand Bolloré essaye, si vous voulez, de faire de la stratégie. Bon, sur Vivendi, j'ai entendu ce que vous venez de dire. La stratégie du lundi, elle n'est pas compliquée. Bolloré, il a mis la main sur un groupe qui était gorgé de cash, qui a vendu plein d'actifs. Et il a fait des coups avec l'argent de Vivendi qui n'était pas le sien. Puis donc, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché.
Mais on parlera de l'Italie, bien sûr.
C'est passé sur l'Italie, où là encore, il a essayé de faire une stratégie télécom. Parler un peu des télécoms avec les opérateurs aujourd'hui, tout le monde sait très bien que Bolloré ne connaît absolument rien, mais vraiment rien aux télécoms. C'est pas pour critiquer, ce que je veux dire, c'est que Bolloré, l'erreur qu'il fait depuis quelques années, c'est qu'il est sorti de son périmètre, de son terrain de jeu. Voilà. C'est un bon financier, mais c'est un piètre industriel. Et quand il joue à l'industriel, on l'a vu en Italie, eh ben ça marche pas. Et même sur les batteries, regardez sur les batteries électriques, c'est pas tant un succès que ça. Il y a des déconvenus, il n'arrive pas à les vendre. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Famille unie ou pas? Le père, les deux
Écoutez,
enfants.
C'est lui le patron, c'est lui le père. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a, comme dans toutes les familles, il y a des branches, il y a des divergences. Il a un fils qui est bien identifié comme étant le futur patron de l'Empire, qui est non pas Yannick, mais Cyril.
Bien sûr, qui dirige la logistique et la direction générale. Ouais.
Qui dirige le cœur du réacteur, c'est-à-dire l'Afrique, la logistique, etc. Vous en parlez mieux que moi.
Ouais, bien sûr, la logistique, Bolloré Africa Logistique, c'est 13% de l'ensemble du groupe. Voilà, on rappellera les éléments pour un instant.
C'est de là d'où vient le cash. Yannick, lui, on sait, on entend dire que Yannick, il est pas... D'ailleurs, on le voit, enfin Yannick Bolloré, il c'est pas du tout le même caractère que son père, et que sur différents dossiers, Télécom Italia par exemple, Canal+, également. Il n'a pas forcément été d'accord avec son père, donc voilà, ça c'est les histoires de famille qu'il va avoir à gérer.
Bon, on va y revenir évidemment sur toutes ces affaires, on va revenir évidemment sur Universal Music, sur Canal+, sur l'Italie. Il y a aussi les fameuses affaires africaines dont on a beaucoup parlé le mois qui vient de s'écouler, donc sur avril et mai. Il est mis en examen, Vincent Bolloré, pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Alors Vincent Hugeux, qui est grand reporter à l'Express, est avec nous. Il faut nous rappeler ce qu'on lui reproche, ce que la justice française lui reproche.
Alors, s'agissant de la Guinée, peu après son élection, le président guinéen Alpha Condé, opposant historique, ami proche de Bernard Kouchner, dont il fut un condisciple de lycée d'ailleurs, peu après donc son élection, quelques semaines après, le dit Alpha Condé résilie brutalement la concession qui avait été accordée à une autre société, en l'occurrence la Jetma, filiale de l'armateur français Necotrans, et confie la dite concession, sans autre forme de procès, à Bolloré. Évidemment, suspicion légitime. C'est-à-dire que l'on s'aperçoit, et j'avais déjà raconté cela dans l'Express à l'époque, que la maison Havas a joué un rôle éminent dans le conseil, lors de la campagne électorale, du dit Alpha Condé, dont il faut se souvenir quand même qu'il termine au premier tour totalement distancé par son challenger, il fait pas 20%, et il gagne d'un souffle au second tour. Bien. Je sais bien que le mémoire en défense que brandit en permanence Vincent Bolloré consiste à dire qu'il y aurait un acharnement. On va y revenir.
Je vais le citer dans un instant.
Oui. Je vais simplement, moi, citer un extrait du rapport de synthèse qui a été fait par les enquêteurs.
Donc là, on est toujours sur la Guinée, hein, Vincent.
On est sur la Guinée, mais le raisonnement, et j'y reviens tout de suite après, vaut également pour le Togo. Il y a un parallélisme des formes assez troublant avec la même technique de sous-facturation, je dirais presque ostensible, de prestations de communication et de conseil.
Bien sûr.
Que dit ce fameux rapport de synthèse, qui avait d'ailleurs été révélé à l'époque, rendons à César ce qui lui revient, par Le Monde, rapport de synthèse daté du 25 avril dernier. L'exploitation des scellés, il y a eu perquisition donc au siège de Bolloré le 8 avril 2016 à Puteau. Perquisition aussi chez Havas, toujours à Puteau. L'exploitation des scellés mettait au jour de nombreux indices qui, de par leur nature et leur chronologie, caractérisaient les contreparties obtenues par le groupe Bolloré du financement des campagnes de Fornia Singbé, président du Duc Togo, j'y reviens tout de suite après, et Alpha Condé. Ailleurs, dans le même rapport, on lit « sous-facturation résultant d'instructions données par Vincent Bolloré et Gilles Alix, directeur général à l'époque de cette branche africaine ». Donc, venons maintenant au Togo. Donc ça, c'est pour faire litière une fois pour toutes du procès en sorcellerie, d'acharnement, etc.
De chasse aux sorcières, etc. Comme il le dit, hein. Il dénonce une chose.
Les enquêteurs dont il est question ici ne sont pas des plaisantins. Alors, s'agissant du Togo, c'est tout aussi intéressant. Vous avez donc au Togo, en 2005, la mort brutale de Niasingbe Eyadema, ancien sergent-chef de la coloniale, qui adorait recevoir avec des brochettes au piment et du champagne rosé tiède le matin, qui entonnait volontiers la madelon d'ailleurs devant ses visiteurs, mais qui était aussi un despote de la pire espèce. Bien, il meurt, son fils est propulsé par l'appareil militaire togolais au détour de d'élections frauduleuses de collection, avec pick-up chargé d'urnes bourrées jusqu'à la gueule, convoyé par des militaires, en fait, etc. Violence, mort, etc. Bien.
Et toujours en ce moment.
On est en 2005. Mmh. Il sera réélu donc 5 années plus tard. Or, on s'aperçoit que là encore, peu après sa réélection, il y a un avenant au contrat de concession portuaire qui confie notamment au groupe Bolloré la maîtrise d'un troisième quai, qui est un enjeu. Alors, quand vous regardez, par exemple, et je crois qu'on y reviendra...
Ce qu'il faut expliquer, le port de Lomé, c'est un port qui est en eau profonde, qui
fonctionne à H24. Considérable.
C'est la pépite de Lomé, la pépite du Togo.
D'ailleurs, au passage, votre intervention, Fabrice, m'invite juste très brièvement à mesurer avec vous l'importance cruciale, d'ailleurs, de l'intuition pertinente et du diagnostic parfaitement juste qui est fait par Bolloré lorsqu'il se lance dans l'aventure de la manutention portuaire. 80% des marchandises qui entrent en Afrique ou qui sont exportées du continent transitent par la voie maritime. Donc, vous avez là la fameuse formule qui a souvent été reprise, qui tient les grues et les portiques, tient l'Afrique. Si de plus, et c'est le cas de Bolloré, vous efforcez via par exemple la boucle ferroviaire, on y revient, oui, car la success story a du pont dans l'aile.
Pour l'instant. Bien. C'est une boucle, eh bien, je vous maîtrisez simplement de quoi on parle, c'est une boucle ferroviaire de 3000 km qui relie Abidjan à Lomé en passant par 5 pays. Pour l'instant, c'est un petit peu en panne, à tel point qu'il y a un tronçon qui va être pris par qui? Par les Chinois.
Hein. Absolument. Alors, si donc vous maîtrisez à la fois l'acheminement portuaire et le transport routier, franchement, vous êtes assis sur un pactole assez confortable.
Le pactole, on en parlait tout de suite avec Mathieu Pecheberti, Bolloré Africa Logistique, donc dirigé par Cyril, donc l'un des fils de Bolloré, 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc en 2017, c'est 40% de l'activité logistique, et on le disait, donc c'est presque 15% du paquet total du groupe Bolloré. Allez-y.
Alors, ce qui est très intéressant, il y a eu donc cette tribune sur laquelle je suis sûr on reviendra, qui est un peu en quelque sorte le plaidoyer pro domo signé Vincent Bolloré, écrit par qui je l'ignore, paru récemment dans le Journal du Dimanche.
Je vais citer quelques extraits. Que dit-il Vincent Bolloré? Ce qu'il est normal en effet de le citer, puisque voilà, on parle de la procédure judiciaire. Que dit-il, enfin que dit donc cette tribune? Comment imaginer que des dépenses de communication de quelques centaines de milliers d'euros comptabilisées en toute transparence, dit-il, aient déterminé des investissements de centaines de millions d'euros pour des opérations portuaires où l'exigence technique est considérable, etc. Ces appels d'offres ont été réalisés dans un cas 2 ans dans l'eau, 9 ans avant les élections d'Alpha Condé en Guinée et de Fornia Singbé au Togo. Et que dit-il aussi? Il déplore qu'en raison de campagnes véhiculant des informations fausses ou malveillantes, le continent africain où son groupe investit près de 4 milliards d'euros et a contribué à créer énormément d'emplois soit appréhendé comme une terre de non-gouvernance, voire de corruption. Allez, un petit tour. Vincent Hugeux, puis Mathieu.
Oui, alors, rapidement, une petite exégèse sémantique et lexicale de ce texte. qui est intitulé « Ne l'oublions pas, faut-il abandonner l'Afrique ?» Vous voyez là l'acception presque affective du propos. Non, Monsieur Bolloré, il ne faut pas abandonner l'Afrique. En revanche, il faut abandonner des pratiques qui entravent son accession à la souveraineté économique et politique authentique. Le passage que vous citez, comment imaginer que quelques centaines de milliers, c'est beau comme un aveu. Il met en rapport la modicité des sommes engagées dans les dépenses de communication, etc. Mais donc, implicitement, c'est un aveu. Oui. Plus loin, il est question d'agissement. Mais en bon français, le mot agissement se réfère d'ordinaire à des actes délictueux ou suspects. Sans doute n'a-t-il pas mesuré la maladresse lexicale. Plus loin, il est question de cette Afrique que l'on dépeindrait à tort, dit-il, comme un terreau de suspicion légitime. C'est pas moi qui ai écrit légitime, c'est lui. Donc la suspicion est légitime, y compris sous sa plume. Vous voyez, moi je trouve que ce texte est d'une maladresse insigne et ne conforte absolument pas sa posture dans ce dossier qui, disons-le, j'ai cité des éléments d'instruction tout à l'heure, est absolument accablant.
Quelle défense? Comment vous jugez cette défense? Comment ça a été considéré cette défense, François Chollet, vous, le patron de Montségur Finance? Les marchés n'avaient pas trop accusé le coup, il me semble, à l'époque.
Ah, si, sur la
publication. Mais ensuite, après.
On a eu un recul significatif. Il s'avère que depuis, le titre a repris un petit peu d'altitude en concernant Bolloré. C'est très simple. Hein. L'analyste financier se pose qu'une seule question. S'il y a des litiges, combien ça peut coûter à l'actionnaire? Combien ça peut coûter en millions d'euros devant un tribunal pour essayer de les solder? Et lorsqu'on regarde les multiples ou les histoires de tous les litiges africains, c'est des choses qui vont de 50 millions à 2,5 milliards. Ça dépend si le tribunal il est français, s'il est américain. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres, mais c'est une fourchette. Voilà. On a perdu quasiment 600 millions de capitalisation sur l'annonce
De la mise en examen.
Oui. Ce qui est quand même très significatif.
Pensez à la suite, le jour même, bien sûr, on l'avait raconté.
C'est quand même très significatif. Ça correspond d'ailleurs à peu près à la moyenne, comme quoi les marchés sont rationnels, à la moyenne des amendes qui sont infligées dans ce genre de corruption par les tribunaux lorsqu'ils sont soumis. Donc la réaction du marché a été assez forte, assez violente, avec des échanges qui étaient assez fournis, mais il faut quand même le signaler, les choses sont revenues peu ou prou à l'état initial, puisque le titre Bolloré a recouvré un peu de hauteur quelques jours après ces annonces.
Simon Tenenbaum et Mathieu Pechberti.
Oui, non, ça peut poser tout de même des questions sur la stratégie globale du groupe Bolloré, de ses priorités. Si on peut quand même comprendre maintenant, notamment vis-à-vis de Vivendi, Havas, etc., est-ce que depuis le départ, son seul prisme, c'est pas finalement celui d'aller en Afrique et de réussir ses affaires en Afrique, et que tout ce qu'il a fait en France, finalement, à côté, n'était-il pas uniquement pour servir cette conquête africaine? Est-ce que même le fait d'être allé chercher Havas, l'objectif d'Havas, c'est quand même un spécialiste de la communication politique, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à faire ça? Est-ce que ce qui ne l'intéressait pas le plus dans Vivendi, c'était la présence de Canal+ en Afrique, qui lui permet sur place de se présenter comme d'apporter quelque chose de nouveau à l'Afrique? Et c'est là où ça peut poser la question de la cohérence de la stratégie qui est mise en avant depuis le début, depuis qu'il est arrivé chez Vivendi, de dire qu'il veut faire un champion européen des contenus, etc., convergents.
Une sorte de façade, de prétexte, de vitrine.
Un peu un prétexte, voilà. Alors qu'en réalité, le cœur du business serait l'Afrique.
Voilà, c'est là l'Afrique qui représente 20% de l'activité du groupe Bolloré, hors intégration récente des activités de Vivendi.
Oui, François Chollet, Monségur. Un peu de comptabilité simple, d'analyse financière simple. Les deux contrats en question représentent à peu près 40 millions d'euros de résultats par an.
Les deux ports. Hein,
ça se valorise en valeur dans le groupe Bolloré pour à peu près 10 fois ça, 400 millions. Moi, je suis certain d'une chose, il a gagné beaucoup plus d'argent chez Vivendi.
Mathieu Pechberti.
Bon, et effectivement, ne faisons pas semblant de découvrir que des sociétés comme Havas ou comme Canal+ sont avant tout, pour des gens comme Vincent Bolloré, des outils d'influence. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas gagner d'argent avec, mais on ne le découvre pas. Pourquoi croyez-vous que le groupe Bouygues avait racheté TF1 il y a 30 ans? Pourquoi Martin Bouygues l'a gardé? Il s'en défendra toujours, mais on le sait. Arnaud Lagardère lui-même a rebaptisé ses médias Europe 1, JDD et Paris Match Pôle Influence. Donc, à un moment donné, c'est marqué dessus. Ces hommes d'affaires ont des médias. Bernard Arnault également avec les Échos parisiens pour avoir de l'influence. Ça fait partie du bagage, des outils des hommes d'affaires d'avant peut-être. Et c'est là où aussi, en revenant à cette tribune du JDD, quand il joue sur la corde sensible, faut-il abandonner l'Afrique, qui était les paroles sous Mitterrand, sous Chirac, un peu sous Sarkozy, ça renvoie à cette France-Afrique. Le seul point qu'on peut lui reconnaître quand même, c'est qu'il dit, si c'est pas nous, c'est les Chinois. Évidemment, les Chinois ne prennent pas des contrats en Afrique à la loyale non plus.
Ce qui ne l'empêche pas de pactiser avec le groupe chinois CHEC pour le port camerounais de Kribi.
Non mais alors ça, les hommes d'affaires restent des hommes d'affaires. Mais en dehors de ça, Vincent Bolloré est quand même dans tous ces dossiers-là, que ce soit sur la France entre guillemets, c'est-à-dire Vivendi, Canal+, l'Italie, on en parlera après, et évidemment l'Afrique, a des approches qui sont d'un autre temps, qui sont en train de passer. Et ça c'est un vrai sujet parce que la France-Afrique, c'est censé être derrière nous. Je pense qu'on découvrira chaque année que ça continue de nous rattraper. Mais les méthodes de Reeder qui sont les siennes, quand il prend le contrôle d'Havas, quand il prend le contrôle de Vivendi, comme il a essayé de prendre le contrôle de Telecom Italia, ça passe de moins en moins. Il y a des Reeder qui aujourd'hui sont plus financiers que lui. Il y a eu affaire d'ailleurs en Italie. Voilà, c'est Vincent Bolloré.
La fameuse influence dans les milieux autorisés que vous fréquentez sur le continent africain, est-ce que cette mise en examen, ça a été une surprise? On pensait Bolloré intouchable sur ses affaires africaines. C'est quoi l'étendue du réseau Bolloré en Afrique, ses amitiés? Est-ce qu'il est apprécié sur place?
Eh bien, je dirais, dans l'esprit de ce qui vient d'être explicité à l'instant, que sa perception de l'Afrique d'aujourd'hui, et donc des rapports avec les hommes et les femmes de pouvoir, elle est également totalement anachronique. Il est une incarnation de la France-Afrique de papa, y compris lorsqu'il essaye donc de faire vibrer la corde sensible évoquée à l'instant. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que lorsqu'il tente de se défausser en expliquant que les contrats sont antérieurs, mauvaise pioche. En l'occurrence, s'agissant du Togo, il s'agit bien d'un avenant qui est postérieur à la réélection de Fornia Singbe. Les discussions sur l'exclusivité de la manutention portuaire datées de janvier 2010, donc ça ne fonctionne pas. On ne peut pas invoquer l'antériorité. Même topo côté de la Guinée-Conakry, puisqu'il oublie de préciser qu'il était arrivé deuxième lors de l'appel d'offres. Et qu'en fait, il ne récupère le pactole que parce que précisément, on a écarté le premier au prétexte qu'il n'aurait pas rendu les services escomptés. Alors, maintenant, sur l'anachronisme dont je parlais, je vous donne deux petits exemples très simples, mais à mon avis extrêmement éclairants. Il est d'usage chez Bolloré, par exemple, de recruter des personnages d'influence qui, par exemple, appartiennent à la famille du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que Pascaline Bongo, fille de son père Omar Bongo Ndimba, le patriarche gabonais récemment décédé, doit à ses seuls talents, indéniable au demeurant, d'avoir été nommé à la tête de Gabon Mining Logistics? Évidemment non. Est-ce que vous pensez que le dénommé, puisqu'il est tellement inconnu que j'ai besoin de me référer à ma documentation pour retrouver son patronyme, le dénommé Patrick Bolouvi, qui a été porté en novembre 2010 à la tête de la filiale Havas Media Togo, qu'est-ce qui lui vaut un emploi que certains de ses collègues qualifient même de fictif? Eh bien, c'est simplement qu'il est le demi-frère du président. Ça aide. Donc, vous voyez, mais tout ça, c'est la frigère. Quand on fait faire à Jean Botorel un bouquin hagiographique à la gloire de Alpha Condé, et que, en garde à vue, Bolloré explique lui-même, mais il fallait quand même faire connaître cette Afrique, et peut-être le Mandela de demain, c'est lui faire beaucoup d'honneur, à mes clients. Quand on finance, via Havas, là encore, un grand concert prétendument anti-Ebola, mais qui est en fait une plateforme de campagne électorale pour la Guinée-Conakry, vous croyez que les jeunesses africaines d'aujourd'hui, elles avalent ça? Évidemment non.
Allez, un petit mot, et puis on se retrouve dans un instant, c'est passionnant. Mathieu Pechberti.
Oui, c'est un anachronisme. Ce qui est important, c'est que il est aussi valable en Italie. Vous voyez, Vincent Bolloré a pris des positions très très fortes en Italie il y a une quinzaine d'années, sans rentrer dans les détails, mais dans une banque d'affaires qui était s'appelle Mediobanca, qui est l'équivalent du Lazare en Italie. Et il a vraiment été en haut de la tour de contrôle du capitalisme italien pendant 10 ans. Et Vincent Bolloré était surpuissant en Italie. À un moment donné, il a été vice-président de Generali, qui était aussi vraiment un pont de la finance italienne. Bref, enfin, il était surpuissant. Et là aussi, c'est en train de vriller. C'est-à-dire que il a été un peu trop, il a mordu sur cette ligne, il a franchi la ligne rouge, et à un moment donné, ça bascule. Il s'est attaqué, on l'a vu, à Berlusconi il y a 2 ans. Ça n'a pas marché. Et puis, dernière chose qui, là, n'est pas anachronique, mais qui est bien factuelle aujourd'hui, c'est que Vincent Bolloré n'est plus soutenu par le pouvoir actuel en France. Et ça, c'est un point, je pense, extrêmement important. Il était très proche de Sarkozy. On se rappelle de l'épisode du yacht en 2007. Et on sait que ses relations avec Emmanuel Macron n'ont jamais été bonnes. Et ça, je pense que ça n'aide pas à, on va dire, à cacher ses problèmes.
Elles étaient excellentes avec Hollande, ce que l'on ignore trop, notamment oui, via Bernard Coignan, conseiller à l'Élysée, ex-maire de Quimper,
qui le défend encore aujourd'hui.
Et d'ailleurs, si il récupère Criby après avoir été distancé lors de la première phase d'un appel d'offres, c'est le hasard sans doute, quelques jours après un passage éclair de François Hollande à Yaoundé.
Allez, on se retrouve dans un instant. Bolloré a-t-il encore la vista? Gros plan sur Vincent Bolloré, gros plan dans un instant sur l'Italie, en effet, les déconvenues italiennes et puis une possible mise en bourse de Universal Music, la pépite du groupe. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors les résultats trimestriels de Vivendi et puis focus sur Vincent Bolloré quand même. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois, donc avec en effet de façon surprise Bolloré qui a annoncé qu'il lâchait les rênes de Canal+, de Vivendi. Il y a toutes les affaires africaines dont on vient largement de parler, des affaires italiennes, des déconvenues dont on va parler dans un instant. Et donc, eh bien, dans un contexte bien particulier, il y a la question d'une possible introduction en bourse de la première maison de disques au monde. C'est la pépite de Vivendi, c'est Universal Music. Hein. Universal Music, c'est Kanye West, c'est Rihanna, c'est Justin Bieber, The Weeknd, Kenji Girac, Marc Lavoine, Cœur de Pirate. Je ne vais pas faire tout le catalogue. Que disait Vivendi ce soir? C'était Arnaud de Puyfontaine. Il annonce le lancement des travaux permettant l'évolution du capital d'Universal Music, tout en précisant, Vivendi est complètement agnostique concernant l'évolution possible du capital. Qu'est-ce qui peut se passer, François Chollet? Donc, on parle d'introduction en bourse, comment valoriser au mieux Universal Music? Racontez-nous.
La société est en train de se revaloriser par elle-même. On vient d'une période de décroissance de chiffre d'affaires très longue, avec simplement la mort du disque et du DVD. Mmh. On est en train de récupérer sur cette branche-là, de la croissance et de la marge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette activité, qui représente une part significative du chiffre d'affaires du groupe Vivendi, est en train de prendre de la valeur. Et prenant de la valeur pour les prochaines années, il y a tout intérêt aujourd'hui pour Vivendi, soit d'imaginer la faire coter par elle-même pour que le marché puisse la valoriser en tant qu'entité indépendante, soit simplement de s'en séparer ou d'imaginer tous les scénarios possibles. Mais en l'occurrence là, la bonne nouvelle pour les actionnaires de Vivendi, c'est que vous aviez un poids qui était un peu mort pendant des années, qui redevient un contributeur de valeur pour le groupe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément revenir autant en grâce il y a quelques années.
Donc on ne sait pas s'il y aura une introduction en bourse ou pas?
On ne le sait pas, mais on imagine bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la valeur de Vivendi, on a une décote simplement qui est liée au fait que c'est une holding qui a plusieurs métiers et que les synergies ne sont pas totales entre ces métiers-là. Par conséquent, la vocation du chef d'entreprise, qui est une vocation patrimoniale sur une holding comme ça, c'est de faire en sorte que chacun de ces métiers soit valorisé pour le mieux possible. Et une des façons de faire, c'est laisser simplement le marché, pour une quote-part en tout cas, juger de la valeur de cet actif.
Après François Chollet de Montségur Finance, Simon Tenenbaum, BFM Business.
Oui, effectivement, on voit l'intérêt, encore une fois, financier de pouvoir mettre en bourse éventuellement Universal. Mais ça montre, encore une fois, cette difficulté à mettre en place une stratégie industrielle. Les synergies qui ont beaucoup été mises en avant à une époque entre Canal+, les jeux vidéo Universal. Bon, sans doute que ça n'a pas apporté autant que ce que ça a pu être dit, puisqu'ils sont prêts éventuellement à s'éloigner d'Universal. Et voilà, et au final, Vivendi et Canal+, vont, au bout d'un moment, ne former plus qu'une seule entité. Il ne restera que Canal+. Et la question, c'est est-ce qu'il y avait quand même peut-être une stratégie plus de, avec des convergences quand même et des synergies à faire autour de Canal+, dans les contenus. Il y a quand même peut-être quelque chose qui a été raté de ce côté-là, on peut se poser la question.
Mathieu Pechberti.
Encore une fois, Vincent Bolloré a une vision qui est totalement patrimoniale, voilà, il faut le dire assez clairement. Regardez ce qui s'est passé sur Havas. Vivendi a racheté Havas il y a quelques mois, alors que l'entreprise était au plus haut, commençait tout juste à décroître, lancé une OPA en cash à plus de 2 milliards d'euros, avec le cash de Vivendi. Il l'a donné à qui? Qui était le propriétaire d'Havas? C'était le groupe Bolloré. Donc c'est-à-dire que Vincent Bolloré était à la fois juge et partie, acheteur et vendeur, et il a pris le cash de Vivendi pour le faire remonter dans son groupe. Vincent Bolloré a une vision patrimoniale, c'est un entrepreneur familial, c'était pas une critique, mais il faut le savoir, et je pense qu'à partir de là, ses discours sur les stratégies industrielles, on les lit d'une autre manière.
Alors, l'Italie, on en a largement parlé, ça fait aussi partie des épisodes de ces dernières semaines, de ces derniers jours même, Telecom Italia qui annonçait donc hier que la direction et la coordination de Vivendi sur l'opérateur avait pris fin. Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia avec une participation de 24%, mais Vivendi qui a perdu le contrôle du conseil d'administration. Et on voit avec seulement 9% du capital, eh bien, il détient désormais 10 sièges au conseil. Vivendi n'en a plus que 5. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vivendi dit s'inquiéter de la nouvelle gouvernance à Telecom Italia. Il n'exclut pas la convocation d'une assemblée générale pour remanier le conseil d'administration. C'est quoi cette histoire Telecom Italia?
C'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Vivendi, Vincent Bolloré, donc, hein, pour être très clair, est rentré par effraction chez Telecom Italia. Mm-hmm. C'est le orange italien. Hein, c'est très, très important. Et à partir du moment où il est entré chez Telecom Italia, il a essayé d'être aux manettes opérationnelles pour essayer de faire, effectivement, de l'industrie, de la stratégie industrielle Telecom à laquelle il ne connaissait rien. Et comme tout le monde a vu qu'il n'y arrivait pas parce qu'il ne savait pas comment
faire. Il y a eu un bronca.
Un autre investisseur, Raider, lui aussi, c'est-à-dire comme Bolloré l'était avant,
Elliot
est arrivé, et ça a été facile de challenger Bolloré là-dessus, parce que Bolloré...
Soutenu d'ailleurs par le gouvernement italien, ce fonds.
Et en plus, voilà. Et c'est là où on rebondit sur Bolloré en Italie. Mais voilà, donc ça a été vraiment l'arroseur arrosé. Et effectivement, ce qui s'est passé en plus de ça, c'est que Bolloré, pensant, tout comme sur le dossier Mediaset, c'est-à-dire donc de la famille Berlusconi en Italie, avoir le pouvoir, c'est-à-dire le soutien des autorités italiennes, parce que Bolloré est très présent en Italie, oui, et très puissant depuis 15 ans, et là, il ne l'a plus. Et là, c'est un véritable désaveu, parce que Bolloré a vraiment un réseau assez puissant en Italie, il a des présences financières importantes dans le capitalisme italien.
Vous le disiez avec Mediobanca notamment.
Avec la banque d'affaires Mediobanca, sur laquelle il a pu faire des affaires pendant pas mal d'années, et là, pour la première fois, il n'est plus soutenu par les autorités italiennes. Et ça, c'est un signal très fort, parce que ça veut dire que ils sont en train de lâcher Bolloré. Et je pense qu'à un moment donné, où c'est aussi l'effet domino.
Pourquoi il le lâche, quoi? Il y a une sorte de soulagement, quelque
mais
part, une sorte
une fois,
de revanche.
Il va trop loin.
Il s'est attaqué à Berlusconi, par exemple, lors de ce raid, il y a un an et demi.
Je pense que ça a été vraiment le péché à ne pas commettre. Ouais. Parce que Berlusconi, en plus, il a attaqué Berlusconi au moment où Berlusconi avait des problèmes de santé. Il a des problèmes familiaux, il a beaucoup d'enfants, des femmes différentes. Tout est compliqué dans la famille Berlusconi. Il a sous-estimé Berlusconi. Et encore une fois, Bolloré, c'est peut-être un peu trop dit qu'il était lui-même chez lui en Italie.
Tout juste.
Et là, il a froissé aussi, on est dans la culture.
Il y a un climat anti-français en Italie aussi.
Oui, mais voilà. Moi je pense que... Non, il y a un climat anti-Bolloré.
Ah, anti-Bolloré. Je pensais par exemple aux histoires STX, Fincantieri, tout ça, ça n'a pas aidé.
Oui, mais ça se passe pas si mal que ça.
D'accord.
C'est les affaires industrielles, on se tire.
D'accord.
Et les pays font des bras de fer, mais ça c'est le jeu. Là, il y a la preuve, c'est que le gouvernement italien est allé contre Vincent Bolloré. Donc il y a bien maintenant une sensation anti-Bolloré qui était paradoxalement suivi par Berlusconi, qui était pourtant pas en forme en Italie. Hein.
Vincent Hugel, Express, François Chollet, Montségur.
Alors, sur les questions italiennes, je préfère passer mon tour.
Tout juste.
Compétence. En revanche, s'il est possible, je voudrais revenir un peu sur une autre facette de l'archaïsme Bolloré, c'est son rapport aux médias.
Allez-y.
Quelques éléments factuels, là encore, relatifs notamment au Togo. En octobre dernier, il y a eu la censure d'un reportage de l'émission L'effet papillon de Canal+, un reportage intitulé « Lâche le trône », donc au sujet de la protestation populaire contre la volonté de Fornia Singbe, président du Togo, de se maintenir au pouvoir en réalité jusqu'à l'échéance 2030. Ça laisse le temps de voir venir. Eh bien, ce reportage a disparu tout soudain de la plateforme de replay et il a été privé de rediffusion. Plus intéressant encore, le site Les Jours révèle en décembre dernier que un matin, c'était le 22 décembre exactement, à l'heure du laitier, en catimini, et diffuser une sorte d'objet médiatique non identifié, qui est un clip de propagande qui serait risible s'il ne s'attachait pas à dépeindre une situation politique et sociale désastreuse, sous les traits, je le cite, de l'exemple d'une stabilité politique qui sécurise tout le pays, le fameux Togo, traversé de manifestations et d'émeutes, et encourage les investissements. Et on s'aperçoit que les images qui apparaissent là ont été empruntées au site de la République du Togo ou de son gouvernement. Ouais. Et j'ajoute un dernier élément, il y a chez Vincent Bolloré, et on le voit chaque fois qu'on écrit sur lui, si vous ne décernez pas un brevet de perfection, vous risquez d'être assigné pour diffamation ou bien dénigrement.
Et vous connaissez ces avocats.
Dernier point, très rapidement. Oui. France 2 diffuse dans l'émission Complément d'enquête un reportage sur les plantations. Car il y a l'aspect plantation, d'ailleurs, il est arrivé par là, par la reprise de la Banque Rivaux.
Oui, c'est vrai, en Afrique.
Il y a une holding.
Il y a les ports, il y a le rail, il y a les plantations, voilà. DVA, notamment.
Eh bien, figurez-vous que Vincent Bolloré exige 50 millions d'euros de dommages pour un reportage dont il estime qu'il dénigre ses activités au Cameroun.
Pour conclure, c'est quoi? C'est un passage à vide? C'est des convenus spécialement en ce moment où il est coutumier quelque part du fait? Cyril et Yannick, ils vont avoir du boulot ou pas? Allez, un petit tour chacun. Mathieu Pechberti.
Oui, mais de toute façon, pardon, Vincent Bolloré a dit qu'il quitterait ses fonctions en 2022 pour le bicentenaire du groupe Bolloré. Donc voilà, c'est dans 3 ans, 4 ans, ça va arriver vite.
C'est pas une période noire en ce moment. C'est des périodes qui reviennent régulièrement ou pas?
Il y a déjà eu des déconvenus, il y a déjà eu des reculs, des prises de recul de Vincent Bolloré, enfin des affaires dans lesquelles il s'en est pas très bien sorti, à Aegis, qui était une boîte de pub en Angleterre, mais là on est vraiment sur la fin de l'histoire Vincent Bolloré. Je pense qu'il est assez malin pour le savoir et le comprendre, et pour faire en sorte que sa sortie soit pas catastrophique, et il a des enfants effectivement qui vont reprendre la main, qui vont avoir du boulot pour faire le ménage.
Échec également.
Si mes lectures disent vrai, il a sur son smartphone une application qui est un compte à rebours jusqu'au 22 février 2022, date à la fois 22, de son 70e anniversaire et du 200e anniversaire de la maison. Eh bien, il aurait dû apprendre auprès de ses amis et des spots africains que dès lors qu'on annonce son départ, on précipite l'histoire. Et donc, je pense que là, il y a une accélération inévitable.
Allez, François Chollet et Simon Tenenbaum, et on se dit au revoir.
Une conclusion difficile, mais en tant qu'investisseur, lorsque vous avez suivi Vincent Bolloré tout au long de son parcours d'investisseur patrimonial, comme vous citiez tout à l'heure cette approche, et y compris chez Vivendi, vous avez plutôt bien fait. Vous disiez qu'il avait eu des échecs industriels. Moi, j'ai un souvenir magnifique de son parcours sur Vallourec, une entreprise qu'il a récupérée à des niveaux de valo extrêmement bas et qu'il a accompagné dans une croissance incroyable pendant quasiment 10 ans, avec un succès qui a fait un groupe de taille internationale aujourd'hui. Et à l'intérieur de Vivendi, vraiment la conclusion au titre de ces résultats, c'est qu'une grosse partie du boulot est fait aujourd'hui et que c'est un groupe dont l'ensemble des éléments sont bien orientés.
Simon Tenenbaum.
Non, mais on verra si Yannick Bolloré, justement, qui a pris les rênes de la partie média un peu plus tôt que prévu, va réussir. Le travail n'est pas totalement fait. Canal+, notamment en France, est encore assez compliqué. Havas, comme tout le secteur de la pub, a des gros défis devant lui. Donc, il va devoir faire ses preuves assez rapidement, finalement, sur cette branche média.
Merci Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Les Reines d'Afrique, le livre sur Kadhafi également. Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business. François Chollet, directeur général de Montségur Finance. Simon Tenenbaum, reporter à BFM Business. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Reviens dans quelques jours.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.